Nous allons démarrer. Donc, bienvenue pour cet entretien avec Juan Miguel Aguilera, qui va nous permettre de découvrir un petit peu plus en profondeur l'œuvre de cet écrivain et également illustrateur et ses méthodes de travail, les idées que l'on retrouve dans ses romans, donc, qui vous permettront ensuite de pouvoir entrer plus précisément dans ce qui vous plaira. Alors, Juan Miguel Aguilera est donc né à Valence. Il habite toujours à Valence, en Espagne. Il est dessinateur industriel, il possède sa propre entreprise. Et donc, ensuite, Juan Miguel Aguilera est également écrivain et illustrateur, donc, pour des couvertures, des festivals, etc. Donc, Juan Miguel Aguilera, à quelle époque avez-vous commencé à écrire?
Bueno, yo creo que he escrito siempre y he dibujado siempre, ¿no? Tengo un recuerdo de un momento. Yo cuando era pequeño me acuerdo de escribir cuentos infantiles y hacer dibujos. Siempre he escrito.
Donc je crois que j'ai toujours écrit et j'ai toujours dessiné et j'ai des souvenirs d'enfance où j'écrivais des contes.
Sobre esa pregunta, yo tengo amigos que han empezado a escribir a los 40 años o a los...
J'ai des amis qui ont commencé à écrire plus tard, à 40 ans par exemple.
Pero en mi caso yo creo que siempre... hay una cosa muy curiosa. Y esto lo descubrí una vez que estaba haciendo una entrevista.
Il y a quelque chose de très étrange et j'en ai pris conscience au moment d'une interview.
Cuando yo era pequeño, iba al colegio, siempre iba inventando historias en mi cabeza.
Quand j'étais petit, j'allais à l'école et je m'inventais toujours des histoires.
Sí, veía las historias, las comenzaba. Y ya, normalmente además tenía varias historias. Cuando me cansaba de una, pasaba a otra y seguía esa historia.
Donc en fait, dans mon esprit, j'avais plusieurs histoires et donc je vivais avec. Et quand j'étais fatigué d'une, je passais à l'autre, puis à l'autre.
Esto con 8 años.
Et à l'âge de 8 ans.
Y era como películas que me iba contando a mí mismo.
Donc c'était comme des films que je me racontais à moi-même.
Yo pensaba que todo el mundo hacía lo mismo, claro.
Mais moi, je pensais que tout le monde faisait la même chose.
Yo descubrí que no era así con 40 años o así, que una vez...
C'est seulement vers l'âge de 40 ans que j'ai découvert qu'en fait, c'était pas comme ça pour tout le monde.
Yo estaba convencido que todo el mundo hacía eso.
Je pensais que tout le monde imaginait des histoires.
Hay mucha gente que lo hace, de todas formas, pero no lo hace todo el mundo.
Tú eras el único en escribirla.
Sí, claro, hay un paso de imaginarlo a escribirlo.
Donc, en effet, il y a un pas à franchir du moment, de l'imagination au passage à l'écriture.
Y hay un paso aún más grande de escribirlo a publicarlo o intentar publicarlo y pensar que alguien va a pagar dinero por leer esas cosas que se te ocurren a ti.
Et il y a encore un autre moment très important, c'est le passage de l'écriture à la publication et au moment où on peut penser qu'il y aura des personnes qui vont payer pour lire ce qu'on a écrit.
Lorsque vous avez commencé à écrire, vous n'avez pas commencé tout seul, vous avez commencé avec Javier Vidal, en développant tout un monde, le monde d'Acasapuspa. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période et nous décrire le monde que vous avez inventé?
Quand vous commencez à écrire, vous écrivez seul, vous écrivez dans le monde d'Acasapuspa?
Sí. Javier era profesor de biología y es una de las personas más extrañas que he conocido y con una mente más prodigiosa. Antes de existir internet, porque yo soy muy viejo y viví una época en la que no teníamos ni ordenadores, escribíamos con máquina de escribir.
Donc Javier est une personne très impressionnante, c'est un prof de biologie et bon, tout ça quand on a écrit ensemble, ça se passait avant qu'internet n'existe.
No solo internet, ni siquiera los ordenadores.
Et même pas les ordinateurs.
Yo escribía con máquina de escribir y con papel de calco al principio.
Donc j'écrivais avec l'ancienne machine à écrire avec le papier calque.
Pero Javier era como tener internet ya en esa época.
Mais Javier, c'était comme si j'avais internet déjà à la maison à cette époque-là.
Le preguntaba cualquier cosa de cualquier tema y lo sabía.
Donc je lui demandais n'importe quoi sur n'importe quel thème et bien sûr, il savait répondre.
Era muy raro, una persona muy extraña, pero tenía una memoria fotográfica. Cualquier cosa que había leído en su vida se acordaba de eso.
Donc c'est une personne bizarre, très étrange, mais il avait une mémoire photographique. Donc il se souvenait absolument de tout ce qu'il avait pu voir un jour.
Él era profesor en el instituto donde yo estudiaba.
Il était prof dans le lycée où j'étais élève.
Entonces quedábamos a veces en su casa y hablábamos de ciencia sobre todo. Yo era un apasionado de la ciencia, pero no sabía nada de ciencia.
Donc quelquefois on se voyait chez lui et moi j'étais passionné par la science mais je ne savais rien et donc j'en discutais avec lui.
Hablando con él aprendí muchísima ciencia y luego me aficioné y leí mucho porque yo sobre todo creo en la ciencia y en la racionalidad.
Donc c'est à travers lui, grâce à lui, que j'ai appris beaucoup sur la science. Ensuite, je me suis documenté parce que moi, je crois vraiment à la rationalité.
Entonces, en esta época empezamos a escribir una novela. Yo imaginé más o menos toda la historia, pero hablando con él, él le dio coherencia y racionalidad científica a todo lo que a mí se me ocurría.
À ce moment-là, on a commencé à écrire un roman à quatre mains, donc. Et donc, Javier donnait la partie... proposer la partie rationnelle avec des éléments scientifiques vérifiés et pour le romanesque c'était donc Juan Miguel.
Pero lo hacíamos, tardamos 5 años en escribir esa primera novela, Mundos en el abismo.
Donc on a mis 5 ans à écrire ce roman.
Y tardamos 5 años porque no teníamos ninguna esperanza de publicarlo en ningún sitio porque en esa época en España no se publicaba ciencia ficción.
Donc ça s'appelait Monde dans l'abîme et on a mis 5 ans parce qu'on n'avait aucun espoir de publier ce roman et qu'en plus en Espagne la science-fiction ne se publiait pas du tout à ce moment-là.
Bueno,
c'était en 1986.
Finalement la cosa cambió, una editorial importante como era Ultramar, que era una editorial llevada por que era el director era Domingo Santos, que era una persona histórica en España, en contactó con nosotros y nos pidió una novela. Y justamente la primera novela que escribimos la publicamos y fue un éxito nada más publicarse.
Entonces, on a été contacté à ce moment-là par Domingo Santos, qui était le directeur de la maison d'édition espagnole Ultramar, qui leur a demandé un roman. Et c'est à cette occasion qu'ils ont publié Monde dans l'abîme en 1986.
Yo creo que fue, perdona, una sola cosa, fue un éxito porque era un mundo muy detallado, con muchos detalles, y eso fue porque estuvimos 5 años trabajando en él.
Et je crois que ça a été un succès parce que c'était très documenté, avec beaucoup de détails, et c'est bien parce que nous y avions passé 5 années de travail.
En España lo comparan con las mejores novelas como Dune, o como novelas que tiene Larry Niven y el mundo, historias del espacio reconocido de Larry Niven, historias del espacio reconocido de Larry Niven, y Dune de Frank Herbert, porque son mundos con mucha cantidad de detalles. Y eso fue porque, como no pensábamos que íbamos a publicar nunca, nos dedicamos a pulir hasta el último detalle.
Et donc c'est un roman qu'on compare à Dune ou au roman de Niven, de Larry Niven, justement à cause de tous ces détails, de la précision et de la construction narrative.
Je voulais juste apporter une précision concernant Domingo Santos et les éditions Ultramar. En fait, Domingo Santos, c'est quelqu'un qui est vraiment un des grands anciens de la science-fiction en Espagne. Et grâce justement à cette maison d'édition, cette collection Ultramar, il a vraiment développé la science-fiction en Espagne et notamment publié des auteurs espagnols. Et il a à l'heure actuelle un prix à son nom. Donc c'est un petit peu, je dirais, en importance pour les Espagnols, enfin pour la science-fiction espagnole, un peu comme notre Jules Verne, quoi. C'est vraiment un grand monsieur de la SF espagnole. Voilà, parenthèse fermée.
Yo considero a Domingo Santos como mi padre literario, o sea, como la persona que me dio la oportunidad. Y hay una cosa que antes...
Moi, je le considère comme mon père littéraire, et en plus, c'est lui qui m'a donné l'opportunité de publier.
Antes de Domingo Santos, en España, la cosa estaba tan mal que si querías publicar ciencia ficción, tenías que publicar con un seudónimo anglosajón.
Avant Domingo Santos, la situation était tellement critique en Espagne que si on voulait publier de la science-fiction ou avoir une chance de publier de la science-fiction, il fallait publier sous un pseudonyme anglo-saxon.
De hecho, Domingo Santos venía de la novela de Duro, la novela barata, aquí sería equivalente a Flair Noir. Y él publicaba con un seudónimo anglosajón que era, creo que, Peter Danger.
Donc moi j'ai publié sous le pseudonyme Peter Danger. Oui, oui, à travers Domingo Santos, sous le pseudonyme. Répète ton pseudonyme.
Sería el equivalente a Flair Noir en Francia, era novela aventuras y esto, pero en España era obligatorio tener un nombre anglosajón.
Donc en Espagne, c'était obligatoire d'avoir un nom anglo-saxon.
Su nombre anglo-saxon era Peter Danger.
Peter Danger.
Pero y él, entonces cuando lo nombraron director de esta colección Ultramar, él nos dio libertad para escribir lo que queríamos y para por fin publicar las novelas con nuestro nombre espagnol.
Et donc c'est à ce moment-là que Domingo Santos, lorsqu'il s'est occupé de la maison d'édition et des collections, il leur a donné l'opportunité de pouvoir publier, mais non seulement de publier, mais publier sous leur vrai nom.
Y curiosamente, esta novela, Mundos en el Abismo, cuando la editorial pensaba que iba a ser un desastre, porque una novela, una space opera, escrita por con dos personas con nombre español, no iba a funcionar, fue un éxito para la editorial.
Oui, au moment où on pensait que ce space opera en espagnol, avec un nom espagnol, allait être un désastre, ça a été un gros succès.
Y fue un éxito, y bueno, pues a partir de ahí, eso le dio fuerza a este Domingo Santos para seguir y adelante con su... con su proyecto, y yo creo que fue el que cambió esa imagen del escritor español, Domingo
Donc,
Santos.
Y eso ha dado un élan a Domingo Santos para poder continuar sus publicaciones.
Bueno, y Acasapuspa es un mundo muy lejos de aquí, con hombres que han cambiado para viajar muy lejos del sol y de nuestra... Oh, perdón. Je viens de réaliser que je commençais à poser.
Donc Acasapuspa est un monde très lointain de nous, et donc tu as créé cet univers pour.
Voilà, donc je voulais demander, donc le dire que effectivement c'est tout un univers qui s'est créé avec des hommes qui sont loin de, enfin, aux confins du système solaire. Donc comment fonctionne ce monde et comment les hommes sont-ils arrivés là?
Comme Javier Redal era muy estricto con la ciencia, no aceptaba nada que no fuera científico. Quisimos hacer un imperio galáctico sin hipervelocidad, sin velocidad más rápida que la luz.
Ah, donc ce système fonctionnait, c'était un empire galactique, mais qui ne fonctionnait pas avec la vitesse de la lumière. Et ça a été un gros travail parce que Javier était extrêmement pointilleux sur la précision scientifique.
C'est vrai, c'est bien dit. C'est extrêmement pointilleux.
Pointilleux.
Sí, c'est très bien dit. Entonces, imaginamos un cúmulo globular.
Donc, on a imaginé un cumul, un amas globulaire, oui.
Es exterior a la galaxia de la Vía Láctea, donde estamos, y en ese cúmulo están amontonadas las estrellas, están muy cerca unas de otras.
Donc dans cet amas globulaire, les étoiles sont très proches les unes des autres.
Al mismo tiempo, los cúmulos globulares que existen realmente.
Y esos amas globulaires qui existent réellement.
Orbitan el núcleo, el centro de la Vía Láctea.
Donc ils constituent l'orbite de la Voie Lactique. Ils orbitent le milieu de la Voie Lactique, pas. Oui, c'est ça, le centre.
El núcleo, sí. Entonces, al orbitar, atraviesan los brazos espirales donde nosotros estamos.
C'est comme ça qu'ils traversent les spirales dans lesquelles nous nous trouvons.
Y se produce un fenómeno que capturan estrellas o pierden estrellas.
Et donc, ils peuvent capturer des étoiles ou en perdre.
Entonces, imaginemos un futuro muy remoto en el que el Sol había sido capturado por un cúmulo globular.
Un futuro muy remoto.
Sí, un futuro muy lejano.
Sí, sí, sí. Donc, on a imaginé un futur très lointain.
Donde el sol, nuestro sol, había sido capturado en uno de estos.
Où le soleil, notre soleil avait été capturé par l'un de ces amas globulaires.
Y ahí imaginamos pues muchas razas alienígenas y humanas y una situación donde las estrellas están tan cerca unas de otras que con naves de fusión podían viajar.
Donc on a pu imaginer des situations où les étoiles étant tellement proches les unes des autres, les habitants pouvaient voyager dans des vaisseaux sur chaque étoile.
También imaginamos toda una biología adaptada a vivir en el espacio.
On a aussi imaginé toute une biologie adaptée pour cette vie dans l'espace.
Javier Redal era biólogo, y entonces a esa biología le dio una profundidad que pocas veces se puede encontrar en una novela.
Et comme Javier était biologiste, il a donné une profondeur qu'on trouve rarement dans des romans.
Es decir, las criaturas que aparecen están descritas hasta a nivel molecular.
C'est-à-dire que les créatures décrites sont décrites jusqu'au niveau moléculaire. Donde se puede comprar.
Il a été publié en France puisque je l'avais récupéré, je l'avais traduit et publié chez Imaginaire sans frontières.
C'est ça. C'est dans Les Enfants de l'éternité en 2003.
Non, 2001. 2001, on a vu. Il est sorti en 2001. Alors malheureusement, il est épuisé, mais bonne nouvelle. Je pense que je vais réussir à le placer en poche dans la collection Helios, c'est en discussion. Donc nous avons de fortes chances, parce que c'est vraiment un roman exceptionnel que je vous conseille, C'est extraordinaire, extraordinaire. D'ailleurs, il avait eu un très bon succès critique au moment où il était sorti, mais malheureusement, c'était dans une toute petite maison d'édition, très peu réputée, et donc la diffusion avait été réduite. Mais vraiment, très grand succès critique, les lecteurs l'avaient adoré, et donc il y a des chances qu'il soit republié, peut-être en 2015, en collection poche. Le titre en français, c'est Les Enfants de l'Éternité. En fait, il y avait deux romans.
Oui, oui, il y a deux romans qui sont fusionnés. Et Sylvie fait la traduction et avec le nom de Les Enfants de l'Éternité. Il a pareil dans sa collection. Mais originalement, ils sont deux romans fusionnés en un seul.
Mundo
de l'Abismo, Hijos de l'Éternité. Et il y a un troisième roman, mais c'est important de lire en première fois. Le roman qui a traduit Sylvie de Les Enfants de l'Éternité, il y a un autre roman qui s'appelle Mons et Démons, qui est pareil en Au Diable Vauvert.
Et oui, qui est paru Au Diable Vauvert.
Mais c'est une continuation. C'est important pour lire en première fois les romans traduits
pour. Mons et Démons, il est paru en 2005, donc je ne sais pas s'il n'est pas épuisé, mais si jamais.
Oui.
Alors, bon, bah, il est là. Donc,
Je pense que c'est pour lire comme un roman indépendant, mais c'est bon parce que c'est en français. Non. Je crois que se peut lire comme une novela indépendante, Mundos y Demonios, parce que se vuelve à contar un peu tout ce qui sucede.
Oui, donc il s'agit d'une suite, mais je pense qu'on peut le lire aussi de manière indépendante.
Mais c'est bien lire si se réédite Les Enfants de l'Éternité. Porque ahí sí que se habla con todo detalle como si es un universo.
Mais c'est bien évidemment si c'est réédité l'année prochaine de commencer par Les Enfants de l'Éternité qui constitue la fusion de deux romans, Monde dans l'abîme et Enfants de l'Éternité. Donc il y a vraiment beaucoup de grandes chances que ce soit publié en 2015, que ce soit réédité.
Me acaban de dar una noticia fantástica.
Son nom. Oui, Juan Miguel Aguilera.
Bueno, esto es un momento para la historia porque me acaba de dar la noticia de que se va a reeditar en otra
colección. En fait, voilà, c'est un moment historique parce que j'en ai discuté hier avec l'éditeur puisque en fait je préparais la table ronde, donc je savais que j'allais faire l'entretien avec Juan Miguel Aguilera depuis quelque temps puisque nous on prépare nos tables rondes un peu en amont. Et puis d'un coup, je regardais la liste des romans et puis je me suis dit mais bon sang, Les Enfants de l'Éternité, c'était un sacré bon roman, ça fait un bon moment que bah voilà, les gens qui l'ont lu l'auront oublié et puis que de nouvelles personnes seraient intéressées. Et comme souvent, on sort les romans en poche un bon moment après qu'ils soient parus. Je me suis dit, ça serait peut-être l'occasion de le proposer. J'ai croisé donc l'éditeur en question hier, on en a discuté. Alors bon, c'est pas encore fait, mais ça a de bonnes chances de se faire parce qu'ils sont intéressés. Donc ce qui serait une excellente nouvelle, et il vient de l'apprendre. Parce que je ne lui en avais pas parlé avant d'avoir lancer quelques pistes auprès de... Si l'éditeur m'avait dit non, bah, ça servait à rien de...
Realmente, si voy a ser sincero, es un escenario que odio un poco.
En réalité, s'il fallait que je sois vraiment sincère, c'est une scène que je hais.
Porque aunque en Francia no ha sido tan conocido como en España cada vez que hay un festival, todo el mundo me dice que por qué no escribo más novelas de ese escenario.
Ah oui, je le déteste parce que même si... En France, ça n'a pas eu une grande publication. En Espagne, à chaque fois que je participe à des discussions littéraires, on me dit mais pourquoi est-ce que tu ne continues pas à écrire dans cette veine-là?
Y realmente para mí eso fue una época de mi vida, fue muy interesante. Y lo que he hecho ahora es abrir el escenario a otros escritores.
Et pour moi, ça fait partie c'est une partie de ma vie. Et ensuite, je suis passée à d'autres ouvertures, d'autres projections scéniques.
En España, un amigo nuestro, Rodolfo Martínez, ha publicado dos antologías situadas en este escenario.
Donc, un de nos amis communs, Sylvie, donc, Rodolfo Martínez, a publié déjà deux romans.
Deux anthologies,
qui traitent de cela. De cet univers-là, oui.
Parce qu'en fait, il a cédé aux auteurs le droit d'utiliser son univers, puisqu'il n'avait plus envie d'écrire dessus, et donc il y a déjà eu deux anthologies parues là-dessus.
Et donc on peut céder le droit d'utiliser son univers.
Oui, son univers. Et incluso hay autores que son mainstream, comme José Carlos Somoza, qui est un auteur de la corriente general, qui a escrito una novela situada en mi escenario de Casa Puspa, ou Alfonso Mateo Sagasta.
Somoza, pour un mainstream, par exemple, a écrit un roman qui fait partie de, ce, de cette veine-là, de la Casa Puspa.
Y Alfonso Mateo Sagasta, que es un escritor en España muy respetado de novela histórica, también ha escrito relatos situados en mi escenario.
Et Sagasta aussi, qui a utilisé, qui a écrit des récits situés sur cette scène que j'ai inventée.
Y el año pasado me dieron un premio en la Hispacom, que la Hispacom sería el equivalente a esto, que es el premio Gabriel.
Donc l'année dernière, j'ai eu le prix Gabriel en
la Hispacon.
En la Hispacon.
Que es un festival, parecido a esto. Oui. Es un, el Gabriel es un premio que no es a los autores que ya son tan viejos que piensan que se van a morir de un momento a otro.
C'est un endroit où on, où
es el premio a la labor de una vida.
Où on donne des prix à des auteurs qui sont à l'article de la mort. Et bon, il vient de l'avoir, donc voilà. Je ne sais pas si c'est de mauvaise augure ou pas.
Es el premio, el Gabriel es el premio a la labor de toda una vida.
Oui, donc ça vient gratifier, célébrer l'œuvre de toute une vie.
Yo me sentí feliz que me lo dieran, pero un poco ofendido.
Donc j'étais content qu'on me le donne, mais un peu vexé quand même.
Pero me dijeron que no, que habían hecho una excepción en mi caso.
Ils m'ont dit qu'ils avaient fait une exception dans mon cas.
Porque viendo el premio por haber abierto mi escenario a otros autores.
Donc en fait, parce qu'il lui avait donné ce prix, parce qu'il avait ouvert cette scène à d'autres auteurs.
Alors, après ce moment de SF, donc dans la carrière de Juan Miguel Aguilera, vient une autre période. Donc, Juan Miguel, ensuite, vous décidez d'écrire des romans de fantasy historique. Donc, le premier, c'est La Folie de Dieu.
La Folie de Dieu, oui.
Qui sera suivi de Lila.
Et, después de haber escrito varias novelas situadas en este escenario, un poco rompí ya la relación con
après avoir écrit des romans qui se situaient dans ce contexte, donc j'ai un peu cassé avec ce contexte et je suis passée.
Con Javier Redal rompí la relación de escritor.
Et donc j'ai arrêté d'écrire à quatre mains avec Javier Redal.
Primero escribí un cuento que aún estaba situado en este escenario, pero en solitario, que lo publicó Stéphanie Nicot en un especial que hizo. Donc,
j'ai écrit un conte après ça qui se situait dans le même environnement, publié par Stéphanie Nicot.
C'était donc La Forêt de Glace dans Galaxy.
La Galaxy.
Donc, dans la revue Galaxy.
Un numéro spécial qui se publicó de Galaxy. Que fue muy sorprendente porque en ese momento yo no había publicado nada en Francia.
Y... Ça a été très étonnant parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas publié quoi que ce soit encore en France.
Et Galaxy me dedicó un numéro spécial.
Et Galaxy. M'a consacré un numéro spécial.
Aún no entiendo por qué.
Une publication en France et je.
Aún no he comprendido por qué.
J'ai pas encore compris pourquoi.
Ben, c'est parce qu'en fait j'avais repéré la nouvelle en Espagne et que j'avais repéré le travail de Juan Miguel Aguilera et que Stéphanie Nicot, qui à l'époque donc avait une revue de science-fiction, parlait beaucoup de science-fiction anglo-saxonne et de science-fiction française. Et lorsque je lui ai dit, mais il existe de l'excellente science-fiction, il y a beaucoup de choses là qui se sont faites récemment, justement à partir de la collection Ultramar, etc. Il y a des gens très intéressant en Espagne et qui m'a dit, bah, ça serait bien, si tu veux, ça serait bien que tu fasses un dossier sur la SF espagnole. Et donc, pour illustrer le dossier sur la SF espagnole dans le numéro spécial, j'ai donc récupéré ce conte, El Bosque de Hielo, de Juan Miguel Aguilera. Je l'ai traduit, j'ai rédigé le dossier et voilà pourquoi Juan Miguel Aguilera est arrivé en France.
Donc, c'est La Forêt de Glace en français.
Alors, attendez, je l'ai peut-être. Ça fait longtemps, hein. 99 ou 2000, quelque chose comme ça. Alors, attendez, dans les nouvelles.
La Folie de Dieu, c'est 2001, donc c'est avant.
Oui, c'est avant. C'est juste avant. Oui, je crois que ça doit être 2000, 99 ou 2000. C'est l'ancien Galaxy, en fait.
Después de esto, yo escribí La Folie de Dieu. Yo quería encontrar un camino distinto.
Après ça, j'ai écrit La Folie de Dieu et je voulais trouver un chemin différent.
Me encanta el espacio y todo esto, pero quería hacer algo que estuviera más cercano a la forma de sentir de España.
Donc j'adore l'espace, mais je voulais trouver quelque chose qui ressemblait davantage à la forme de à la façon d'appréhender le monde en Espagne.
De alguna forma relacionaba la space opera con el mundo anglosajón.
Donc d'une certaine façon, je mettais en relation le space opera avec le monde anglo-saxon.
Y quería hacer un tipo de ciencia ficción que fuera diferente, auténtico.
Donc je voulais faire un autre genre de science-fiction qui soit plus authentique, donc espagnol dans ce cas.
Y escribí la locura de Dios.
Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit La folie de Dieu.
En La locura de Dios sustituí la documentación científica por la documentación histórica.
Donc j'y ai remplacé la documentation scientifique par la documentation historique.
Un personaje que fue el primer personaje que escribió en catalán.
Donc j'ai parlé de l'un des premiers personnages qui a écrit en catalan.
Ramon Llull.
Donc Raymond Llull.
Yo lo conocí en un viaje a Mallorca, en una iglesia, vi un cuadro.
Donc j'ai fait sa connaissance, évidemment Raymond Llull est mort en 1315. Donc il a fait sa connaissance à travers un tableau qu'il a vu lors d'un voyage à Mallorca dans une église.
Un monje, un franciscano.
Donc c'était un moine franciscain.
Dentro de una iglesia, pero todo a sus pies, en vez de estar rodeado de símbolos religiosos, estaba rodeado de símbolos científicos.
Ce qui était étonnant, c'est que sur ce tableau, au lieu d'être entouré de symboles mystiques, religieux, il était entouré de symboles scientifiques.
Astrolabios,
astrolabes,
aparatos para medir el peso de las cosas, para calcular la altura de las estrellas.
Donc des balances, des instruments pour calculer les poids, pour calculer les distances vers les étoiles.
Esta imagen me fascinó y empecé a investigar sobre
él. Donc cette image m'a fasciné, j'ai commencé à faire des recherches sur lui, sur Raymond Llull.
Y entonces encontré algo que luego en todas mis novelas históricas he usado.
Et donc c'est là où j'ai trouvé une idée que j'ai exploitée dans tous mes romans.
Un personaje del pasado por el que puedo sentir empatía realmente.
Donc un personnage du passé pour lequel je ressens de l'empathie.
Que aunque está dentro de su época y no es un hombre de los siglo XXI,
eh bien qu'il appartienne à son époque et pas au XXIe siècle,
siento que sus motivaciones las puedo entender y me puedo sentir como si yo en su época hubiera sido como él.
Je sens que je peux comprendre et ressentir ses motivations et que vivant à son époque, je les aurais ressenties et j'en aurais fait l'expérience de la même façon.
No es fácil encontrar esto, pero hay personajes a lo largo de la historia en los que de repente te sientes. Que ven el mundo de una forma parecida a ti.
Donc c'est pas très facile de trouver cela, mais quelquefois on rencontre des personnages historiques avec lesquels on ressent cette proximité et on ressent la même chose que lui. On en a l'impression.
Entonces imaginé una historia que mucha gente dice que la folie de Dieu es fantasía.
Donc j'ai imaginé une histoire pour laquelle beaucoup de gens disent que la folie de Dieu donc que
pero
c'est
yo
de la fantasy.
Defiendo que es ciencia ficción, no
mais
es fantasía.
Mais moi je défends vraiment qu'il s'agit de science-fiction.
Y fue mi primera novela en ese estilo.
Et donc, ça a été mon premier roman.
Donc ensuite vient Rila.
J'ai oublié de dire une chose que j'ai dit beaucoup d'occasions, mais non, c'est pas mal. La folie de Dieu s'est publiée en France, au Dialogue de Beauvais. Il s'est présenté à le festival imaginal del 2002. Il a gagné le premier prix. Imaginal.
Donc effectivement, la folie de Dieu donc a été publiée en France donc en 2001.
En 2001, oui.
Et du coup, ça a été le premier roman à remporter le prix Imaginal pour sa création donc en 2002 pour les parutions de l'année 2001. Et une chose extraordinaire, c'est que la folie de Dieu donc est parue chez le Diable Vauvert. Et à ce moment-là, se produit une situation très étrange. Vous signez un contrat qui fait que vous écrivez vos romans pour le Diable Vauvert. Ils sont traduits et le Diable Vauvert revend les droits de la version espagnole aux éditeurs espagnols.
C'est juste. C'est juste y c'est es justo y es una cosa que en España no la entendían.
Oui, c'est vrai, c'était quelque chose d'incompréhensible en Espagne.
Realmente fue una iniciativa de Marion, que era la.
Donc ça a été une initiative de Marion.
Que era la editora de Odiale Bover, que me lo propuso. Y en ese momento me pareció una buena idea.
Donc ça m'a semblé être une bonne idée.
Pero Rila y Les Sommeliers de la Raison aparecieron antes en Francia que en España porque
et donc Rila y Le Sommeil de la Raison ont été publiés en France d'abord et puis en Espagne
porque luego las editoriales españolas tuvieron que negociar con una editorial francesa para publicarla en España
parce qu'ensuite il a fallu aux maisons d'édition espagnoles des négociations avec Le Diable Vauvert donc la maison d'édition française pour pouvoir elle-même publier
Es una situación muy extraña realmente, pero
c'est une situation très étrange.
Hay que colocarse también en la época.
Mais il faut se remettre dans le contexte.
En ese momento, ¿verdad, Sylvie? Vivimos un momento mágico. O sea, con las primeras utopiales, con las imaginales, pensamos que el futuro iba a ser distinto.
Donc ça a été un moment, on a vécu un moment magique avec les premières utopiales et on a pensé que le futur allait être différent.
Pensamos que iba a haber una especie de cultura europea donde el idioma no iba a importar tanto y donde iba a haber una, se iban a publicar novelas francesas en España, iba a haber una comunicación, me hice muy amigo por, perdón.
Donc on a pensé qu'il y allait y avoir une culture européenne dans laquelle il n'y aurait plus de frontières linguistiques et qu'on allait publier les uns chez les autres.
Fue un momento mágico y muy emocionante para mí.
Ça a été un moment magique et très émouvant.
Pensamos que dice, bueno, realmente vamos a crear una cultura europea.
Donc on a vraiment pensé qu'on allait créer une culture européenne.
En ese momento tenía mucho éxito un escritor italiano que
donc à ce moment-là, il y a eu un écrivain italien qui a eu vraiment beaucoup de succès.
Que se hizo muy nos hicimos muy amigos, se llama Valerio Evangelisti.
Valerio Evangelisti et ils sont devenus très amis.
Nos hicimos muy amigos y vivíamos todos, Sylvie también, pensando, dice, estamos empezando algo nuevo, una cultura europea donde esto va a funcionar.
Sí, et on vivait tous dans cette excitation avec Sylvie aussi. Avec l'idée de qu'on allait construire une littérature européenne.
Il y avait aussi l'allemand Andreas Eschbach. Enfin,
si pensamos que somos europeos, escribimos, vale, on vamos a solucionar.
On va résoudre.
Oui, il y avait aussi un auteur portugais. Enfin voilà.
Sí, realmente ese momento fue así. Y en ese momento esta idea tenía lógica. Porque
à ce moment-là, cette idée avait toute sa logique.
¿Qué más me daba publicar en una editorial catalana o
donc pour moi ça signifiait rien de publier dans une maison d'édition catalane ou une française, c'était ouais. Pareil.
Et il faut voir qu'à cette époque-là, il y a eu une période où il y a eu une espèce de relan de la science-fiction sur toute l'Europe et effectivement les éditeurs en republiaient, étaient intéressés par des traductions, enfin, il y a eu comme ça une espèce de bouillonnement pendant 5 ou 6 ans après l'an 2000. Et où donc là vraiment les auteurs, il y a aussi eu des nouvelles de comment s'appelle-t-il cet auteur de fantasy non d'un pays de l'Est.
Sarkowski.
Voilà, André Sapkowski, le polonais aussi. Enfin voilà, il y avait des traductions comme ça un peu tous azimuts.
Fue un momento mágico realmente. Y yo en España defendí ante mi editorial que se publicara, por ejemplo, a Pierre Bordas. Yo pensaba que en España era imprescindible que conocieran a Pierre Bordas y que conocieran a otros autores franceses.
Donc pour moi c'était vraiment indispensable. Je voulais faire connaître Pierre Bordas par exemple. Je voulais qu'il soit publié en Espagne. Et pour moi c'était indispensable qu'il soit connu en Espagne et aussi que d'autres auteurs français puissent être publiés en Espagne.
Ayerdal, bueno, todos. Realmente era una riqueza. En España se traduce cualquier porquería que escriba un anglosajón.
Donc pour moi c'était un enrichissement et c'est vrai qu'en Espagne on traduit n'importe quel.
Se traducen cosas buenas, buenas novelas anglosajonas, las mejores.
Donc,
pero,
traduit aussi de très bons.
Con lo cual estoy totalmente de acuerdo.
Pero
también se traduce lo peor. Es que les da igual.
Mais on traduit aussi ce qu'il y a de pire et ça leur est totalement égal.
Cuando yo intenté que mi editorial, que era Minotauro,
quand j'ai essayé que ma maison d'édition Minotaur publie.
Yo era muy amigo del editor, Paco Lorenzana.
Donc j'étais très ami de Paco Lorenzana, l'éditeur.
Que publicara a autores franceses, la excusa fue que no había traductores franceses.
Donc quand j'ai essayé de faire publier les auteurs français, son excuse a été qu'il n'y avait pas de traducteur.
Absurda.
Et donc ça a été cette inertie absurde.
Del mínimo esfuerzo.
Du moindre effort.
En fin, fue un sueño que un poco se nos ha roto.
Donc enfin ça a été un rêve qui a été un petit peu brisé.
Alors donc après la folie de Dieu, donc avec le récit de ce moine qui voyage, Rila, ces hommes qui vont vers l'Amérique, on trouve ensuite
este monje que viaja y Rila de los monos que descubren en América.
Sí, realmente hay una constante en toda mi obra. Lo comentábamos ayer en la mesa que hicimos con Stéphanie.
Il y a vraiment réellement une constante dans toute mon œuvre, ce qu'on commentait hier sur la table ronde avec Stéphanie Nico.
Es un poco lo que vemos en la película 2001, los australopithecus.
C'est un peu ce qui correspond à ce que nous voyons dans le film 2001 avec les australopithèques.
El ser humano enfrentado al viaje, a lo que viene del exterior y tal. Eso es algo que me ha obsesionado en
todo. C'est l'être humain confronté au voyage et à tout ce qui vient de l'extérieur, et c'est quelque chose qui a toujours représenté une obsession pour moi.
Todas mis novelas tratan de un viaje y de un encuentro con lo extraño, de un enfrentamiento a lo extraño, y es la base un poco de
todo. Donc tous mes romans traitent de l'étrange et d'une confrontation avec l'étrange.
La idea de la otredad.
Donc l'idée de l'autre.
Le voyage et l'autre.
Oui, le voyage et l'autre.
Et effectivement, on voit ce voyage, il peut se dérouler à la fois dans des environnements médiévaux du passé, mais également dans Akasapuspa, lorsque les hommes traversent l'espace.
C'est bien.
Et l'altérité, c'est pareil, c'est lorsque ce moine Raymond Lull rencontre ce peuple étrange, c'est lorsque les voyageurs de Rila découvrent les premiers habitants de l'Amérique, c'est la rencontre de l'autre.
Yo creo que hay algo esencial en nuestra historia como europeos.
Il y a quelque chose d'essentiel dans notre histoire en tant qu'européen.
Cuando estaba escribiendo La Folie de Dieu, leí muchos libros de viajeros medievales.
Donc, lorsque j'étais en train d'écrire La Folie de Dieu, j'ai lu beaucoup de récits de voyageurs médiévaux.
Y la idea de que somos lo que somos cuando nos vemos a través de los ojos de otras personas.
Donc, et l'idée que nous sommes ce que nous sommes quand nous nous voyons à travers le regard d'autres personnes.
Y que si no relativizamos nuestra realidad con otras realidades.
Si on ne relativise pas notre réalité avec d'autres réalités.
Realmente no tiene sentido.
Cela n'a aucun sens.
Creo que la madurez de una sociedad implica que conoce otras sociedades y que es capaz de respetar esa diferencia con otras sociedades.
Je crois que la maturité d'une société, c'est lorsqu'elle elle a rencontré d'autres sociétés et qu'elle est capable de les respecter.
Pero hay algo que, bueno, ya lo dije ayer, pero lo repito, que me encontré con estos relatos de viajeros medievales y es el sentido de la maravilla.
Donc, oui, il y a quelque chose que j'ai rencontré dans ces récits de voyage du Moyen-Âge, c'est le sens du merveilleux.
Cuando lees el libro de Marco Polo.
Par exemple, dans le livre, quand on voit le retour de Marco Polo.
O otros viajeros medievales.
Ou d'autres voyageurs.
Ellos se emocionan.
Oui, ils ressentent une grande émotion.
Pero la misma cosa que nos emocionaríamos nosotros cuando escribimos ciencia ficción, ante lo sorprendente, lo extraño, lo maravilloso.
Donc nous ressentons cette même émotion lorsque nous rencontrons le merveilleux, le fantastique.
Y
la science-fiction.
Repito también lo que dije ayer en la mesa.
Donc je répète un peu ce que j'ai dit hier lors de la table ronde.
Yo creo que ante lo extraño el ser humano reacciona de dos formas.
Je crois que l'être humain réagit face à l'étrange de deux manières.
O bien lo rechaza mediante una actitud xenofóbica.
Si bien il peut le rejeter de manière xénophobique.
Se encierra en su pequeño círculo y no quiere conocer el exterior.
Et il s'enferme dans son petit cercle et il ne veut pas du tout aller à la rencontre de l'extérieur.
O se excita, se emociona, se llena de el corazón se le hincha en el pecho ante el encuentro con lo diferente.
Ou alors il ressent une excitation de l'émotion et son cœur se gonfle d'enthousiasme vers cet extérieur.
Ese sentimiento es el sentido de la maravilla.
Et donc ce sentiment que l'on ressent, c'est le sentiment du merveilleux.
Creo que es la esencia de una parte de la ciencia ficción.
Et je pense que c'est une partie de la science dans la science-fiction.
Y ese sentimiento estaba también en los libros de viajeros medievales.
Et ce sentiment était déjà présent dans les livres des voyageurs.
Creo que tenemos necesidad, algunos humanos, a lo mejor no todos, pero algunos, eso lo necesitamos.
Je pense que certains d'entre nous, en tant qu'humains, c'est une chose que dont nous avons besoin. Ce contact avec le merveilleux.
Alors justement, en parlant du voyage et de l'altérité, qui sont les deux grands thèmes de votre œuvre littéraire, vous avez aussi voyagé pour rencontrer l'autre en venant en France publier. Alors, est-ce que vous avez plutôt eu la première réaction ou est-ce que la France, c'est le sens du merveilleux?
Sí, bueno, ya hemos contado hace un momento cómo viví esos años.
Donc j'avais déjà parlé tout à l'heure de ma façon de comment j'ai vécu ces années-là.
Realmente el que las cosas no hayan sido como imaginábamos no quita que ese momento fuera increíble.
Donc le fait que les choses ne se soient pas passées comme nous les imaginions, ça n'enlève rien au fait que ça a été une expérience incroyable.
Y que me sintiera europeo y que sintiera una gran admiración por cómo en Francia se protegía la cultura.
Et le fait que je me sente européen et aussi que je ressente une grande admiration de la manière dont la France peut protéger la culture.
Yo recuerdo el momento en que me dieron el premio Imaginales.
Que... Je me souviens du moment où on m'a donné. Où j'ai reçu le prix des Imaginales.
Sylvie me llevó engañado.
Donc Sylvie
m'a trompé. Hay una cosa ahora.
Et elle m'a dit viens, il y a quelque chose là.
Y yo estaba con otras cosas y tal y no me interesaba mucho el tema del premio.
Donc moi j'avais pas tellement envie d'aller là.
Yo no, yo me quedo aquí, no, pero vente, ven a verlo.
Dit, non, mais moi je reste là. Il dit mais non, viens.
Y de repente dan mi nombre, competía con grandes libros, ahora no recuerdo, pero grandes novelas.
Avec, des romans très importants, et tout d'un coup, il prononce mon nom.
Y vi a mi alrededor un montón de gente aplaudiendo y con una sensación de empatía hacia mí.
Je vois autour de moi plein de gens qui applaudissaient avec ce sentiment d'empathie qui m'arrivait. Je me suis senti vraiment très 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 confortable et très heureux d'être là finalement.
Es verdad que ese momento para mí es de los momentos de mi vida como escritor que atesoro con más cariño.
Ah, et c'est vrai que c'est l'un des moments de ma vie d'écrivain que je thésaurise avec beaucoup de tendresse et d'affection.
Alors, Juan Miguel Aguilera, quels sont vos projets? Il y a un ouvrage sur Sinbad qui vient de paraître en Espagne.
Sí, Sinbad, en el país del sueño, apareció en enero de este año.
Donc c'est Sinbad au pays du songe, du rêve, qui vient de paraître en janvier 2014 en Espagne.
En enero. Y es una historia que me hace retroceder a cuando yo era joven. Hay una cosa.
C'est une histoire qui me ramène à l'époque où j'étais jeune.
Yo estaba fascinado por las películas de Harryhausen.
Donc j'étais fasciné par les films de Harryhausen.
La novela está dedicada a Harryhausen.
Et donc d'ailleurs je l'ai dédié.
Yo era un enamorado de esa maravilla, de ese sentido de la maravilla que los viajes, el mundo árabe.
Donc moi j'étais vraiment tombé amoureux de ce sens du merveilleux des mondes arabes.
Las cúpulas con forma de cebolla.
Les coupoles avec ces formes d'oignons.
La luna sobre Bagdad, los barcos.
La lune sur Bagdad,
los
bateaux,
barcos con las velas triangulares, todo ese mundo.
Les bateaux avec les voiles
triangulaires. Los desiertos. Todo eso me fascinaba de una forma increíble.
Tous ces mondes, les déserts, tous ces éléments me fascinaient d'une façon incroyable.
Y era la fantasía de cuando yo era joven, la que las mil y una noches, la que vivíamos.
Et donc la fantaisie qui me touchait quand j'étais jeune, c'était celle des mille et une nuits.
Después llegó el Señor de los Anillos y la fantasía nórdica.
Mais plus tard, il y a eu la fantaisie nordique et le Seigneur des Anneaux.
Que a mí me gusta también.
Pardon. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps de manger, hein. C'est un lapsus révélateur. El Señor de la Torre, porque no comí. Donc le Seigneur des Anneaux.
Et ça sería una buena novela también.
Et dit, ça serait un beau roman aussi, parce qu'on a couru, mais... oui, los del silencio también.
Y podríamos crear una tendencia, eso que en vez de la nouvelle vague, si fuera la nouvelle vague.
On pourrait créer une tendance aussi, ça serait le roman bar et pas bar.
La nueva vaca.
Et pas vache, la nouvelle vache.
La nouvelle vache.
Et pas la nouvelle vague.
Sí,
c'est ça. Donc on va créer la nouvelle, voilà, le courant de la nouvelle vache.
Me gusta mucho el Señor de los Anillos, no es que no
avec
me guste.
Avec le Seigneur des Anneaux, bien sûr. Mais en fait, j'adore le Seigneur des Anneaux.
Pero no lo siento en el corazón como siento la fantasía oriental y las mil y una noches.
Voilà, mais je le ressens pas dans mon cœur de la même façon comme je peux ressentir les mille et une nuits.
Entonces quería escribir una novela para recordar esas sensaciones.
Donc je voulais écrire un roman pour pouvoir me souvenir de toutes ces sensations.
Quizá la novela donde más he cuidado un estilo poético, más para evocar ese mundo mágico.
Et c'est le roman où j'ai le plus travaillé ce style poétique pour rester dans ce monde, pour créer ce monde magique.
Y además me empeñé en hacer la portada y hacer ilustraciones interiores que ahora se pueden ver todas en la exposición que está ahora aquí en.
Donc, et en plus, j'ai fait des illustrations, j'ai fait la première de couverture, et en plus des illustrations qui sont exposées, vous avez dû les voir à l'espace Sebeil.
Porque yo tenía esa imagen, ese mundo, totalmente en la cabeza.
Parce que j'avais vraiment à l'esprit ce monde, il était totalement véhiculé.
Quería escribir sobre él y también dibujarlo.
Donc je voulais à la fois écrire sur ce monde-là et le dessiner.
Et est-ce que vous savez s'il est prévu que le roman paraisse en France?
No lo sé porque la novela la ha publicado con una editorial muy importante española que
je sais pas encore parce que le roman a été publié dans une maison par une maison d'édition très importante, c'est Random House.
Random House. Entonces, de alguna forma ellos son los que van a negociar todo esto. En general lo negocio yo, pero en este caso es diferente.
En fait, je sais pas trop parce que dans ce cas précis, ce sont eux qui vont négocier et habituellement c'est moi qui négocie pour la traduction et la parution.
Random House es una editorial internacional y con bastante poder y imagino que buscarán yo personalmente voy a insistir para que aparezcan editoriales que conozco como o la Talant o Diario de Bover porque son editoriales que con las que trabajo.
Donc pour ma part, je suppose qu'ils vont chercher des publications de leur côté puisque c'est une maison d'édition très importante, mais pour ma part, je vais insister pour que ça soit publié dans des maisons d'édition que moi-même je connais déjà, donc c'est-à-dire le Diable Vauvert, la Talente.
Pero bueno, c'est décision de ahí no podré controlarlo.
Mais enfin, ça sera leur décision, je peux pas le contrôler.
Eh bien, écoutez, le temps qui nous était imparti est venu à son terme. Donc, on espère de toutes nos forces voir très bientôt cette histoire de Sinbad en France. Et je suis sûre que ça sera vraiment superbe, comme tous les romans de Juan Miguel Aguilera. Donc, je vous invite vraiment à le découvrir. J'espère aussi vivement qu'on va pouvoir ressortir Les Enfants de l'Éternité, parce que c'est également un très beau roman. Et donc, je vous invite à aller voir Juan Miguel Aguilera sous la bulle du livre, si vous voulez vous faire dédicacer des ouvrages et discuter avec lui pour essayer d'en découvrir davantage. Merci de votre attention.
Merci.